êtes sur RCJ. RCJ, un média du Fonds social juif unifié. RCJ.
Le FSU vous souhaite de belles fêtes de Hanouka. Que la lumière éclaire toujours notre avenir et guide nos actions.
Grâce à vous, nous construisons une jeunesse éduquée et engagée. Un réseau d'écoles solides. En Israël, le FSJU aide les enfants traumatisés, soutient les réfugiés avec dignité et espoir. Alors, restons forts, unis et solidaires.
Donnez maintenant sur don2024.fsju.org.
don2024.fsju.org.
Attention, votre don doit être fait avant le mardi 31 décembre.
Bonjour, c'est Laurent Couson. Retrouvez mon nouvel album Night Music, disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Il faut beaucoup d'énergie pour être un entrepreneur. Il faut se relever 50 fois. C'est un des métiers les plus difficiles psychologiquement au monde. On ne reçoit que des mauvaises nouvelles. Tout le monde veut te tuer, tes concurrents, tes fournisseurs, tes salariés. Franchement, c'est dur. Bon, et on a tous un moteur. Ce moteur, il est alimenté par l'ego, pour certains, l'envie, la colère, la douleur, qu'importe. Quel que soit le carburant qu'on va utiliser, ce dont on est sûr, c'est que si on n'a pas eu une source de carburant, alors le moteur ne fonctionnera pas aussi longtemps que ça.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Pause donne le micro cette semaine à l'un des investisseurs préférés des Français que certains d'entre vous ont peut-être découvert grâce à l'émission à succès « Qui veut être mon associé sur M6 ?» Originaire de Marseille, même s'il a un peu perdu son accent, il est très peu scolaire mais trouve plus sa voie en études d'informatique après le bac. Il ne va tout de même pas au bout de ses études pour se lancer dans sa toute première aventure entrepreneuriale, la première de bien d'autres. CTB, Option Innovation, e-France et enfin, une de ses plus grandes, si ce n'est sa plus grande, Mythique, qui se chargera d'asseoir sa légitimité en tant qu'entrepreneur innovant et visionnaire. Vendu en 2011, il ajoute à sa casquette alors d'entrepreneur celle d'investisseur. Le temps d'une pause, il nous parle de sa trajectoire, de son goût du risque, de son flair pour détecter les tendances de demain, de ses succès comme de ses échecs. Il nous dévoile ses conseils précieux. Bonjour Marc Simoncini.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va, c'est bien de faire une pause, j'en avais bien besoin.
J'ai lu sur toi, sur ta famille, j'ai remarqué que tu étais dépeint quand on parle de ta famille comme le vilain petit canard.
Ouais.
Parce que ta maman était institutrice, ton papa ingénieur France Télécom, des grandes études, ton grand frère ingénieur aérométier, ta sœur, ta petite sœur a fait un MBA de finance à Washington. Et toi, tu as redoublé deux fois, c'est ça, une au collège et une au lycée. Ton bac, tu l'as eu deux fois ou
première, en rattrapage quand même.
Tu n'as pas redoublé trois fois, Moi, on fait partie du même clan, hein, puisque moi aussi, j'ai redoublé deux fois. On n'est pas extrêmement nombreux.
Non.
Est-ce que tu t'es senti, parfois même dans ta propre famille, comme, comme un intrus, comme quelqu'un qui était différent des autres. Ton papa te mettait une pression assez importante, lui qui était ingénieur. Comment toi tu l'as vécu très jeune ?
En partant, je suis parti dans ma tête très vite. J'avais 8 ou 9 ans, moi. Et non pas que j'ai quitté ma famille, parce que évidemment je vivais avec eux, mais dans ma tête j'étais ailleurs. Je lisais. Alors, mon père avait interdit la télé chez moi à l'époque, donc on n'avait pas la télé, donc je m'évadais beaucoup dans les livres. Et puis dans les bandes de copains, dans l'eau, dans la mer, je partais loin. Enfin, et surtout, j'arrivais pas à rester dans ce monde qui était très cartésien. Mes parents étaient très cartésiens, mon père était très mathématicien, et ils étaient tous très très cartésiens, et moi je l'étais pas du tout. Et mon père, c'est pas que c'était péjoratif, mais ça me touchait pas. Il disait, oh, de toute façon, Marx, c'est un poète. Ben oui, moi je lisais Lamartine quand j'avais 17 ans, ça rendait dingue mon père, parce qu'au lieu de réviser mes maths, je lisais Lamartine, que je connaissais à l'époque par cœur, page par page, et il comprenait pas que je puisse passer autant de temps dans cet univers qui était pas très rationnel, ouais, et qui n'avait pas de sens, en fait. Pour lui, il comprenait pas, même si il m'a laissé faire, mais...
T'as été très fier, justement, dans tes réussites après. Tu veux dire, papa, regarde, c'est faisable.
Inconsciemment, je pense que j'ai beaucoup fait de ce que j'ai fait pour que mon père me regarde en disant, finalement, c'était pas que un poète. Mais j'ai jamais eu ce retour.
Tu l'as jamais eu, ce
retour? Non, j'ai jamais vraiment eu. Non, ma maman, elle est toujours là, donc je vais pas en parler.
Mais ta maman, ouais.
Non, c'est un peu pareil. C'est, voilà, c'était
un peu de distance.
Un peu de distance, un peu de. Là, j'ai fait beaucoup de bruit pour être écouté. Finalement, j'aurais mieux fait fermer ma gueule et j'aurais été mieux entendu.
Alors là, on est quand même dans ces années où tu grandis. Marseille, hein, puisque tu grandis là-bas, la famille est italienne, enfin une partie de ta famille est italienne, tu grandis à Marseille, dans les Calanques, t'as l'accent, et là, qu'est-ce qui se passe ? Ton papa qui travaille pour France Télécom, donc France Télécom, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'ancien Orange, là, il est dans une voie tracée qui est très loin de ce que toi tu peux imaginer pour toi, hein, c'est que tu rentres là-bas à 20 ans et tu sors potentiellement à 60 ans.
C'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait. Et là, il est muté.
Ouais.
Et ça, il n'est pas forcément muté là au-dessus. Pour toi, au-dessus d'Avignon, pour bien comprendre, hein, au-dessus d'Avignon, pour Marc Simoncini, c'est le Nord.
Bah, il m'a dit, je suis muté dans le Nord. À l'occurrence, à l'époque, ça s'appelait Chalon-sur-Marne. J'étais tellement triste que maintenant, ils ont rebaptisé ça Chalon-sur-Champagne. Hein. Mais il m'a dit, c'est au Nord. Et donc, moi, j'ai pris une carte Michelin. À l'époque, on n'avait pas de smartphone. J'ai déplié la carte et je cherchais au Nord. Où est-ce que j'allais vivre? Et je cherchais Chalon-sur-Marne entre Marseille et Avignon. Et puis, j'ai vu que c'était vraiment plutôt vers Reims. Donc là, j'ai été pris dans un énorme coup de déprime. Mais mon papa venait d'un milieu très, très pauvre. Et il était très, très brillant. Et donc, il a été repéré par le curé du village quand son père, donc mon grand-père, a voulu le retirer de l'école. Le curé est allé voir l'évêché de je sais pas où et a dit, ce gosse, vous pouvez pas le sortir de l'école. Et l'évêché a donné une bourse à mon papa qui est parti dans un couvent, enfin une école religieuse catholique, pour faire ses études. Et toute sa vie, il a franchi tous les échelons pour arriver DRH d'Orange, et je dis toujours ça de manière ironique, mais avec plein de tendresse, c'est qu'il n'avait pas un sens de l'humain énorme, mon père, et il a quand même fini DRH d'Orange. Donc je me dis, chez Orange, au niveau des recrutements, il y a quand même des trucs qui sont étranges, mais voilà, il a eu une carrière de fonctionnaire au mérite, au travail, et je ne l'ai pas beaucoup vu.
Ton papa, qui lui a pu faire ses études grâce à une bourse, était repéré, il avait la foi
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout, parce que mon grand-père avait plein de qualités, et il en avait une qui était extraordinaire, c'est qu'il était communiste, et qu'il était surtout résistant pour les résistances italiennes, et un curé avait trahi ses compagnons, et avait vendu les compagnons aux Allemands, et il avait une énorme dent contre les curés, et la religion en général, et je crois, je sais pas si c'est une légende, mais qu'il n'est pas allé à l'église au mariage de mon père. Je crois qu'il est resté à la porte. Il voulait pas aller voir le curé, c'était vraiment...
Donc là, tu te retrouves à Chalon-sur-Champagne.
Sur Champagne.
Et là, t'arrives avec un accent... Tu pourrais me refaire, c'est quoi ton accent?
Je pouvais parler comme ça, comme je parlais à l'époque. Comment tu t'appelles?
C'est vraiment comme ça que tu parlais?
Oui, vraiment.
Mais t'as travaillé pour le Gommet?
Ouais, j'ai travaillé des années, parce que dès que j'ai fait du business, je me suis dit qu'avec un accent pareil, c'était pas possible.
Donc à 20, 23 ans, quand tu commences à 23 ans,
j'ai déjà ce truc de me dire, j'avais deux complexes à l'époque. Le premier, c'est de pas avoir fait d'études. Énorme complexe. Et le deuxième, c'était d'arriver du soleil avec cet accent. Et alors, c'est étonnant, parce que mon frère a quand même, monter une boîte qui est le deuxième foreur au monde, après un énorme groupe australien, je crois, dont j'ai oublié le nom, mais enfin, il a monté une boîte qui est cotée à Toronto.
Voilà, une boîte qui vaut quand
et
même.
Il parle, et lui, il a gardé
vraiment l'accent de Rému, quoi. Et je me dis, chapeau, parce que.
C'est faisable.
Fallait le faire, tu vois. Il a IPO avec l'accent comme ça. Non, moi, j'ai voilà.
Donc, tu vois, tu as réussi à le gommer.
J'ai réussi à le gommer.
Il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû. Complètement, je l'entends pas.
Ouais.
Donc, c'est faisable. Parce que moi, je vois beaucoup d'amis du Sud qui me disent, ou d'ailleurs, parce que c'est pas que l'accent
non,
du
c'est
Sud.
Faisable. C'est faisable. Il faut avoir un moteur pour le faire. Il faut avoir une vraie motivation. Moi, j'en avais une. Ouais.
Tu pensais que ça allait potentiellement desservir tes ambitions?
J'avais déjà le premier handicap des études, le deuxième handicap, j'avais pas de gros talent nulle part, donc il fallait bien que je trouve. Alors si en plus je rajoutais un troisième problème qui était que j'étais pas pris au sérieux, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu.
Mais ceci étant, dès lycée, tu es accepté par tes camarades, t'arrives, tu joues au foot, tu montres que tu peux avoir l'accent, et puis tu es marseillais à l'époque, c'est quand même alors, c'est quelque chose.
Alors ça, cet accent m'a fait deux anecdotes. La première, c'est que mon plus vieux copain que j'ai repéré à Chalon-sur-Marne,
Laurent,
il m'a avoué bien après que pendant un mois, il n'avait pas compris un mot de ce que je lui avais dit, mais comme il comprenait que personne ne comprenait ce que je disais, il s'était pris de pitié pour moi, il m'avait pris sous son aile. Et dans cette deux années à Chalon où j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avais un gamin qui était très étonnant, qui était assez malade, assez souffreteux et qui ne vivait que dans les étoiles. On l'appelait l'astronaute, il connaissait toutes les étoiles, toutes les galaxies. Et il était tout seul. Et donc, comme moi j'étais seul parce que personne ne comprenait ce que je disais et que lui était seul parce qu'il était la gueule dans les étoiles et que je trouvais ça formidable, bien plus formidable que les cours de maths, je me suis mis de mèche avec ce gosse qui a fini par décéder quasiment dans mes bras, manque de bol, mais j'ai passé une année ou deux dans les étoiles à Chalon-sur-Marne et crois-moi, c'était pas gagné.
Marc, je te propose maintenant une pause amicale, je devrais plutôt dire une pause familiale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise. On l'écoute.
Coucou papa, voilà, on m'a demandé de te trouver une question un peu perso pour apprendre un peu à mieux te connaître. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ton plus beau souvenir d'enfance et surtout ce que tu en as gardé. Voilà, je t'embrasse fort, je t'aime.
Oh mon fils,
ouais, je t'embrasse fort, je t'aime. Ouais, j'adore.
Le plus beau souvenir que j'ai qu'on gosse devait avoir 8 ou 9 ans. Je suis allé me baigner avec mes parents un dimanche dans des calanques à Marseille et je rêvais de plonger avec des bouteilles, sauf que j'étais enfant et que les bouteilles n'existaient pas et moi je pouvais pas descendre à plus de 2-3 mètres et on est en train de se baigner, il y a un groupe de plongeurs, moi je suis avec mon masque et je regarde ces mecs comme si c'était des dieux et un des gars me dit viens avec moi, il me prend dans ses bras, il me met le détendeur, j'avais déjà un masque et je descends avec lui peut-être à 3 mètres mais en dessous c'était très 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 profond et j'ai ce souvenir d'être à la fois mais tellement heureux de enfin respirer sous l'eau, de plonger, d'être en plongeur et tellement effrayé de voir et de pas savoir à quel moment on allait s'arrêter que j'ai vécu en une seconde le plus beau des bonheurs et la
plus effrayant.
Effrayante des trouilles et je revois toujours cette image alors que c'est vieux. Donc tu vois ça reboucle avec les océans.
Voilà. Donc Hugo, voilà la réponse de ton
papa. Et la réponse, c'est que souvent, les choses qui nous rendent heureux, avant qu'elles nous rendent très heureux, elles nous font très peur.
Merci Hugo.
Merci Hugo.
Donc, comme évoqué plus tôt, tu parviens quand même à avoir ton bac. Hein. Compliqué, mais tu l'as quand même. Ton père décide qu'il est urgent que tu intègres le monde du travail. Donc là, tu te retrouves dans le BTP, hein, parce que c'est comme ça, pas longtemps, hein. Mais quand même, dans le dur.
Dans le dur. En fait, il m'a un peu mis dehors. Hein. Le jour de mes 18 ans, il m'a dit « Bon, maintenant, ça suffit, tu dégages. » Bon, moi, c'était pas tellement un problème parce que j'avais un copain dont la grand-mère avait un appart, dont me voilà dans mon appart. Mais bon, moi, j'étais un peu à la rue quand même. Mais bon, dans des conditions sympas, j'étais pas sous un pont. Mais il fallait que je trouve un job et on avait un copain dont le père était dans les travaux publics. Et il m'a dit « Ils embauchent. » Donc je dis « Bah voilà, moi, faut que je trouve un job. »
T'es à Dijon, hein.
Je suis à Dijon, là, pour le coup.
On est passé de Chalon à Dijon.
Exactement,
hein.
Juste après l'élection de Mitterrand. Et je me retrouve dans les travaux publics à creuser un égout qui devait traverser une route. Mais subtilité, on n'avait pas le droit de couper la circulation. Donc on devait creuser sous terre pour passer un tuyau qui allait être l'égout. Et pendant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, j'ai creusé un égout à quatre pattes avec un marteau-piqueur, avec Azouz, qui était mon copain, lui dont c'était le métier, et qui m'apprenait tout. Et j'ai passé 3-4 mois, je me souviens pas exactement, à creuser un égout dans la rue de Dijon.
Donc beaucoup, là, tu apprends beaucoup de choses. On te retrouve ensuite aux États-Unis, on va peu te retrouver aux États-Unis, pourtant on va parler beaucoup digital, c'est pas ton monde, les États-Unis, pour différentes raisons. Mais là, on te retrouve au Connecticut, là tu t'en vas, tu t'évades. À nouveau, pas pour une longue période, mais tu retrouves, je crois que c'était ta marraine qui était dans une station de ski,
exactement. Et je me retrouve comme travailleur l'été dans la station de ski. Alors ça consiste, j'ai fait pas mal de jobs, mais hein, le premier c'était bûcheron. Oui. Bon, quand ils ont vu mes bras, ils m'ont mis dans la machine qui remontait les machines, les troncs avec le treuil. Et après, j'étais jardinier chez un milliardaire. Donc j'ai dû faire 3-4 mois là-bas. J'étais payé $3 de l'heure, je me souviens très bien. J'y ai bossé 3-4 mois et quand je suis revenu, j'avais de quoi payer mon permis.
Et qu'est-ce qui t'a marqué de ces années aux États-Unis? Les 3-4 mois, t'as trouvé quelque chose, une mentalité, quelque chose ou pas vraiment?
Non, c'est pareil, je me suis retrouvé au milieu, enfin, faut voir dans quoi j'étais. C'était des Hells Angels qui venaient bosser comme bûcherons. Ils venaient du Canada, ils venaient du Vermont, ils avaient des bras comme mes jambes, ils étaient tatoués. Et moi, j'arrive le premier jour, je suis un freluquet, et ils étaient au moment en train de se baigner dans un lac après le travail. Et je me revois avec mon petit maillot de bain, eux, ils étaient comme ça, barbus avec de la bière, et moi, Et je me suis dit, ces mecs-là, ils vont me broyer. Et en fait, non, ils m'ont pris sous la relève.
Ton anglais, t'es comment?
Scolaire.
D'accord. Avec l'accent, en plus d'accent. Alors, t'avais encore l'accent,
t'avais
plus
l'accent. L'accent, ça, je me souviens pas, mais on se comprenait très bien. Et finalement, je conduisais le treuil aussi bien qu'eux. Donc, ils m'ont pris sous la relève, ça a été super, ils m'ont appris plein de trucs. Ils ont été surtout adorables, comme les Américains peuvent être adorables.
Et une question pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont en train de se chercher. Toi, on est vraiment dans ces années-là. On te met dehors de chez toi, et tu le dis avec beaucoup de respect pour ton papa, mais il te met quand même dehors. Hein. Merci, tu commences à travailler. Après, tu vas aux États-Unis, tu restes 4 mois, tu te recherches, tu sais que c'est pas ça que tu veux faire. C'est quoi le conseil que tu donnes aujourd'hui à ces jeunes de 20 ans qui pourraient se chercher, ou est-ce que tu dis ne reste pas trop longtemps là où tu penses que c'est vraiment pas pour toi, ne tente, prends ton risque. C'est quoi le conseil que tu donnes, toi?
Le problème, c'est pas pour les gamins qui ont une passion ou qui ont un talent. Bon, c'est évident pour eux, je vais faire ça, je suis musicien, je suis machin, je suis cuisinier. Bon, ça, il y a un truc. Quand on a ni talent ni passion, plus que raisonnable, et que en tout cas sa passion, on n'a pas les capacités de l'assouvir, personne, tout le monde ne peut pas devenir pilote de Formule 1, on n'a pas cette route. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? On ne sait pas, on va choisir sur quoi? Sur un catalogue? On va choisir parce qu'on va aller dans un salon d'étudiants? On va choisir? Ou alors on va vivre des trucs? Est-ce que d'aller travailler dans les égouts, ça m'a permis de me dire je vais faire du digital? Non. Mais ça m'a au moins dit, tu sais quoi? Tu ne feras pas ce job-là. Donc déjà ça t'élimine, et toute cette catégorie de job, tu le feras pas. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai bossé, j'ai vu des gens, j'ai travaillé dans un garage, j'étais avec un milliardaire qui bossait dans l'informatique, donc je me suis dit tiens, l'informatique ça, et puis je suis revenu comme ça. Puis quand un jour j'ai eu l'opportunité de choisir une école d'informatique, je me dis tiens, mais ce milliardaire, il était dans l'informatique, va savoir si ça va pas.
Ouais, un petit peu, tu dis.
Donc il faut bouger. D'ailleurs mon fils, quand il a eu avant le Covid, juste 18 ans, je lui ai dit mais pars faire un tour du monde, barre-toi, va te balader, vois des trucs, rencontre des gens, et puis parce qu'il savait pas quoi faire. Hein. Même s'il avait très envie de faire de la cuisine, il était pas sûr de ça. Voilà.
Et tu penses que tu peux aussi te permettre de faire des choses, t'avais un petit safety net, t'avais cette capacité de pouvoir tester en sachant que au pire maman allait t'accepter à la maison,
évidemment.
Est-ce que tu penses que ça t'aidait aussi à prendre certains risques?
Ouais, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, hein, quand on n'a pas le choix, vraiment vraiment pas le choix, on prend ce qu'on a, hein. Et c'est pareil, on peut réduire ça à une échelle plus petite. Vous êtes dans un quartier, ça va mal, vous avez des choix de merde, vous avez des vies qui sont pas terribles. Bon, bah peut-être que si vous allez rencontrer un copain, puis que le gamin il tague super bien, et que vous dites tiens, ces tags, on va les foutre sur des sneakers, je sais pas, il peut y avoir des trucs qui se passent quand on... Il faut des rencontres.
Des rencontres.
La vie, ça n'est que des rencontres. Voilà. Ouais. Et donc une rencontre avec une passion, une rencontre avec quelqu'un, une rencontre avec un projet, une rencontre avec une opportunité. Et les rencontres, quand on est assis dans une chaise, elles passent moins vite que quand on se balade en zigzag. Donc je me dis que voilà, le seul conseil qu'on peut donner à tous les gens, quelle que soit leur position, c'est de pas rester assis. Voilà, à minima, ne restez pas assis.
Tu reviens en France, et là, école d'informatique, ESI, qui a changé de nom, là aussi, là où tu passes, ça change encore après.
Ouais, ça coule surtout.
Super info maintenant. Révélation, c'est l'informatique.
Alors là,
t'aimes ça. Et alors là, t'aimes, Là, le poète se retrouve bidouilleur informatique, ou pas trop. Tu bidouilles vraiment, tu sais coder, tu passes les nuits dessus, tu commences à travailler dur là.
Je passe les nuits dessus. Surtout que j'ai choisi informatique par hasard, moi, dans un bouquin, dans le truc alphabétique. Après, ça a dû me parler parce que voilà, mais bon, je savais pas trop ce que j'allais foutre là-dedans. Le premier software que j'ai écrit, c'était un générateur de poèmes. Non, c'est complètement débile.
C'est marrant.
Mais
ça.
Je mettais une rime et brrr, il me sortait un poème avec toutes les rimes.
ChatGPT.
Mon père était consterné, mais bon, je passais quand même mes nuits. À l'époque, on achetait des micro-ordinateurs à la Gare de Lyon. Il y avait un petit magasin qui vendait tous les petits trucs qui sortaient, qui n'étaient pas trop chers, le ZX80, l'Oric. Donc j'ai acheté tous ces petits micro-ordinateurs et j'ai programmé jusqu'à ce qu'un jour, la première start-up de France m'embauche comme programmeur. Et c'est comme ça.
Donc ça, c'est ton stage chez Energy Videotech. C'est Videotech, ça ?
Energy Videotech, c'était la deuxième, pour être tout à fait honnête, start-up de France. Digital.
Donc on est dans le télématique, il faut bien comprendre.
À l'époque, on
appelle ça le télématique.
Télématique, c'était un écran de merde, avec une vitesse de merde, mais c'était du online. On tapait une requête, ça allait sur un serveur et ça renvoyait la réponse. Et donc ces gars-là, à l'époque, développaient les premiers programmes interactifs pour que les gens puissent broser sur des Minitel.
Donc là, t'es stagiaire, donc là, tu es dans ta deuxième année, tu prends ce stage,
voilà.
T'as ce patron qui dépasse. Edmond,
voilà,
qui t'embauche, prend en tant que stagiaire,
et qui me propose de rester.
Et là,
il m'embauche.
Et là, tu quittes. Alors c'est assez.
Ouais.
Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Mark Zuckerberg qui a Dropout, ce qu'on appelle Dropout. Hein, la Dropout d'Harvard. Toi, t'étais ESI. Et tu as le courage, parce que c'est le courage quand même
Je suis pas revenu. Je suis parvenu parce que
t'en as parlé à ce moment-là, tes parents, ils là, ils devaient.
Ah non, mais mes parents, ils sont
bidouilleurs de poèmes automatiques.
Ils savaient plus ce que je faisais. Non, là, ils savaient même plus ce que je faisais, mais quand j'ai poussé la porte de cette start-up. Tu vois, tout à l'heure, quand je suis entré dans ton bureau, ouais. C'était un peu pareil. Et qu'il était 19h parce que j'étais reçu après le boulot et que je voyais des gars sur leur ordinateur, la clope au bec, tout le monde avec des écrans partout, des bouteilles de vodka, parce que les mecs, ils y passaient leur nuit, de temps en temps, ils se mettaient un couche et ils programmaient, ils codaient, il y avait des ordinateurs qui clignotaient derrière. Je suis rentré là. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et je suis pas parti.
Là, en plus, l'occasion, c'est que tu commences à gagner bien ta vie.
Ah, un vrai salaire, là.
Pour le coup, ça, c'est important.
Ouais.
Et il te dit quelque chose à Edmond qui t'a marqué. C'est une phrase que tu dis, parce qu'à un moment donné, tu vas voir Edmond et tu vas lui demander la petite histoire. Une partie des actions. Et le stagiaire qui arrive, tu sais quoi, Edmond ?
C'est une catastrophe.
C'est marrant, mais c'est bien. Tu l'as revu, Edmond, après ?
Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il se marre à chaque fois.
Ouais. Et donc tu lui as demandé une partie. Mais il te dit une chose qui te marque, et là on parle de rencontres. Je suis persuadé qu'Edmond fait partie de ces gens, rencontres qui ont été importantes pour toi. Dans la vie, les places ne se donnent pas,
elles se prennent. Et en fait, c'est parce qu'il m'a dit cette phrase. Un jour, je lui ai demandé...
Donne-moi 10%.
Et donne-moi 10% de la boîte. Et il m'a dit, mais ça va pas. Les places ne se donnent pas, elles se prennent. Et j'ai dit, si elles se prennent, il va jamais me la donner. Donc, si je veux avoir 10% d'une boîte, il faut que je la crée. Et voilà comment... Par insouciance, inconscience, j'ai décidé de monter ma boîte pour en avoir 100%.
Je dis souvent que la chance existe, mais les chanceux n'existent pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Oui, les chanceux, ils n'ont pas plus de chance que les autres. C'est juste que eux, quand elles passent, ils tendent le bras. Voilà.
Donc, le jeune Marc, il quitte l'école. Il lance CTB. CTB, c'est ta première, hein ?
Extraordinaire. C'est ma première boîte, mais...
CTB ?
Ça va être une toute petite longue histoire, mais en fait, au départ, j'ai ce projet de monter cette boîte, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'une boîte. Je vois bien qu'Edmond en a une, mais moi, j'ai aucune idée. Et je dois aller jouer au tennis avec un copain à Dijon. Et je sonne à la porte, son père m'ouvre la porte et me dit, il est malade, il peut pas jouer avec toi. Alors, j'étais très déçu, mais il me dit, écoute, si tu veux, moi je viens jouer avec toi. Ce papa, c'est celui qui avait cette boîte de travaux publics dans laquelle j'ai travaillé avant. Et me voilà en train de jouer au tennis avec le père. La partie de tennis terminée, on prend un coca, on boit le coca, et il me fait cette question, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et moi, au lieu de répondre, je suis chez Edmond Chabot et je suis programmeur, je réponds, je monte une boîte. Et il me dit, ça m'intéresse, si tu veux, j'investis avec toi. Est-ce que c'est une SARL ou une SA ? Alors, moi, je réponds au hasard, une des deux. Et il me dit, bah, c'est bon, envoie-moi les statues. Et les, bon, les statues, quoi
c'est quoi,
donc, je me retrouve embringué dans cette boîte. Et je crée cette boîte avec cet actionnaire qui, lui, savait de quoi il parlait et qui m'a d'ailleurs hébergé dans sa boîte, dans sa cave pour démarrer la première société. Donc, si ce jour-là, mon ami n'avait pas fait une gastro et n'avait pas annulé son tennis, je serais jamais devenu entrepreneur. Jamais.
C'est destin.
Ah oui, non, mais
tu crois destin?
Ah bah là, oui. Là, franchement.
Mais dans l'absolu.
Ouais, maintenant, souvent, ouais. Maintenant, avec l'âge, ouais, je me dis qu'il y a quand même des trucs qui sont
écrits.
Qui sont un peu écrits quand même. Ou que t'as envoyé, puis qui me mettent une boucle et qui reviennent.
Et je crois que c'est DB d'ailleurs.
Alors justement, pardon, c'était long. Ouais. Parce que moi, je voulais appeler ça communication télématique.
Ouais.
Pas terrible comme nom, mais bon, ça faisait du software. Hein. Mais lui, il me dit, ben non, mais on est à Dijon, donc il faut l'appeler Bourgogne. Et donc me voilà à la tête de ma startup mondialement connue, communication télématique Bourgogne.
Oh,
là,
magnifique.
Là, j'ai compris que j'avais des lacunes en marketing.
Là, on va parler aussi un peu d'échecs, hein, qui nous pend au nez à tous, et qu'on a certainement... Toutes et tous connus. Liquidation judiciaire.
Ouais.
Là, il se passe que c'est le paiement d'un de tes grands clients.
Qui m'a pas payé. Ouais.
Qui t'a pas payé. Ce qui est, donc là, je pense que pour toi, quand tu regardes aujourd'hui, c'est le cas, encore une fois, de beaucoup de petites entreprises qui sont payées trop tard, trop longtemps après, par des grandes entreprises. Je pense que ça doit à chaque fois te rendre fou de voir ça. Donc, toi, tu as un gros client qui te paye pas.
Tu mets la clé sur la porte. Je mets la clé sur la porte.
Donc, l'échec, toi, c'est un sujet que tu partages souvent avec les autres, dans ce que tu as pu connaître par la suite, après?
Beaucoup, et j'en ai même d'ailleurs fait un livre où j'ai raconté les grands succès des entrepreneurs français Internet, sauf que j'ai raconté la face cachée. Et donc les échecs, là, c'est l'histoire qu'on connaît un peu moins. L'échec, en tout cas, dans mon autre petit...
Dans ce livre-là, il se passe toujours bien à la fin. C'est l'échec important. Des moments d'échec qui arrivent tu vois la lumière à la fin, quand même.
Exactement. Mais l'échec a beaucoup, enfin, dans notre petit monde des entreprises et des startups plus précisément, l'échec a beaucoup changé après l'éclatement de la bulle Internet. Moi, quand j'ai déposé le bilan de mémoire, c'était en 89. On était des faillis. On était inscrits à la Banque de France. On passait devant un procureur qui était au tribunal de commerce avec des mecs qui étaient en robe.
Ouais, c'est lourd, là.
C'était du lourd et on était faillis. Quand on était faillis, c'était un truc. La bulle Internet est arrivée, il y a eu des centaines et des centaines de faillis et à la fin, on a appelé ça des échecs et tout le monde trouvait ça presque cool, voire formidable de s'être planté une fois parce qu'on avait appris. En 89...
C'est pas la même histoire.
C'est pas la même histoire. Quand je suis allé au tribunal de commerce à 8h du matin dans le brouillard, je l'amenais pas large. Bon, voilà, en tout cas, je me suis planté. Instantanément, j'ai recréé une boîte parce que je savais faire que ça. Puis cette fois-ci, je savais les créer.
Donc option
et voilà, et ça je savais qu'après c'était mon job.
Revenons sur l'échec, là c'est un échec dur, le monde était différent.
Liquidé, ouais.
Suite à ça, aujourd'hui l'échec, aujourd'hui, depuis 1989, tu as eu malheureusement d'autres échecs. Comment tu vis l'échec? Tu parlais tout à l'heure, moi je fais partie des gens qui disent, en fait on échoue jamais vraiment, on ne perd pas, c'est on apprend ou on gagne. Ouais. Toi, tu penses que tu apprends à chaque fois, ça peut pas pour autant que ça peut faire très mal, un échec peut faire souvent très mal, mais tu as toujours essayé de regarder le verre à moitié plein ou parfois tu n'y arrives pas?
Bah, en fait, moi, je sans déflorer le reste de l'histoire, mais j'ai tout vu dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai vendu une boîte qui valait rien pour 1,2 milliard de francs, j'ai vendu ça à un groupe qui valait des milliards qui a fini par ne plus rien valoir. Donc j'ai vécu des choses qui ne pouvaient pas exister. Personne ne pouvait acheter une boîte 1 milliard quand elle faisait 2 millions de chiffre d'affaires et aucun groupe de communication numéro 1 dans le monde pouvait ne valoir plus rien. Et pourtant c'est arrivé sous mes yeux deux fois. Donc j'ai compris que finalement tout peut arriver, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gagné et surtout le succès ou l'échec, ça dépend du moment où on fait la photo. 5 minutes avant de me casser la gueule à vélo, je suis sur mon vélo. 5 minutes après, je suis par terre. Si tu fais la photo 1 minute avant, ouais, je suis encore sur le vélo. Ouais. 20 secondes avant, je suis toujours sur le vélo et après, je suis par terre. Donc, en fait, la notion d'échec, elle dépend du moment où on se pose la question et au moment où on fait la photo. Et c'est jamais définitif parce que bah, on se relève, on recommence. Et si tu fais la photo à ce moment-là, tu vois, le mec, il est cabossé, mais il n'est pas par terre.
Je suis d'accord. Voilà. Quand tu te relèves, tu sais très bien, parce que tu as des amis à toi à qui ça peut être arrivé, ça m'est arrivé aussi des amis à moi, qui se relèvent difficilement ou qui ne veulent plus monter sur le vélo.
Beaucoup. C'est pour ça que je dis toujours que la principale qualité qu'on doit avoir, les entrepreneurs, c'est la résilience. C'est combien de fois tu vas accepter de tomber du vélo et de remonter dessus. Parce que si à la première chute, tu arrêtes...
Et
t'es pas entrepreneur,
sûr.
Ou alors t'es un génie.
Et oui, j'en connais pas beaucoup. En tout cas, si, sur Instagram, il y a beaucoup de génies. Hein. Quand oui, tu les vois sur Instagram, j'ai l'impression qu'ils sont... La vérité, c'est ce que je dis très souvent, et c'est important que tu puisses le confirmer, nos vies d'entrepreneurs ne sont que des vies d'échecs, de non, de choses qui ne sont pas faisables, qu'il faut recommencer, mieux faire après. Donc il faut juste savoir que c'est quand même une résilience absolue. Il faut le savoir avant de se lancer.
Ou le découvrir.
Tu parlais d'e-France, là, donc c'est ce sujet-là. Donc là, on continue Option, tu as un moment aussi important parce que tu rencontres certainement un des plus grands entrepreneurs que la France connaît aujourd'hui, qui était un de tes clients, je crois. On parle de Xavier Niel. Est-ce que c'était un client à ce moment-là, un partenaire?
C'était plus un concurrent.
C'était la petite équipe de...
Ouais, c'était un concurrent. Lui, il était déjà beaucoup plus intelligent que moi. C'est-à-dire que lui, il exploitait beaucoup de services online quand moi, je ne faisais que les fabriquer pour les autres. Donc moi, je faisais des pelles et des pioches et lui, il creusait pour aller chercher l'or. Donc, il était beaucoup plus riche. Et beaucoup plus... Voilà, mais c'est Xavier... Mais oui, on s'est croisés à cette époque-là.
Ces premières années. Quelques-uns là-dedans. Ouais, et donc là, encore une fois, on a la chance d'avoir des entrepreneurs comme Xavier qui font beaucoup de choses et qui font ça depuis quand même
très longtemps.
Avec peut-être moins d'échecs que d'autres, Xavier Niel.
Peut-être en nombre, il en a plus, mais comme il y a tellement plus de succès, ça se voit moins.
Ça se voit moins. Là, on est e-France. E-France, c'est un des... service qui venait de cette start-up qui arrive. Ouais. Tu vois quelque chose qui est en train de se passer, une entreprise, très clair, qui ne fait pas d'argent et qui va être acheté une fortune. Tu le vois arriver, t'hésites, on va pas rentrer dans les détails de cette histoire-là. Moi, il y a un moment que j'aime beaucoup dans ce que tu dis à ce moment-là, que tu dis à l'époque, parce que les gens trouvent que t'as vendu ça. C'est comme ça. Je vais te faire réagir à ça d'ailleurs. Trouve que t'as vendu ça trop cher, ou plutôt que à l'époque Jean-Marie Messier, qui était donc le patron de Vivendi, achète ça trop cher. Et je me souviens de cette phrase que j'ai adorée que tu as dite à ce moment-là. Vous êtes en pleine nuit dans la forêt entourée de loups. Vous avez
un briquet.
Combien vaut le briquet? Et je trouvais ça assez assez rafraîchissant d'entendre ça, parce que tu aurais pu dire mais pas du tout, ça vaut ce prix-là. Non, toi, t'étais juste les gars, ça valait pas grand-chose, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à acheter. C'est ça qui se passe.
Pour que les gens comprennent bien, parce que la plupart, c'est très loin, mais je vais vous raconter l'anecdote des Simon Lafarge. À l'époque, Simon Lafarge est une énorme boîte, sauf que dans les années 2000, la bourse ne jure que par les dot-com, les fameuses dot-com. Et tout le monde y va de son dot-com, et Jean-Marie Messier crée Vivendi autour d'Internet, vis-à-vis les portails, etc. Et rachète e-France pour consolider ce groupe de médias digital. Et Lafarge, qui continue à faire du ciment, voit passer tous les trains, tous les cours de bourse s'enflammer, et son cours reste scotché au cours du ciment. Et il y a un gars chez Lafarge qui décide de lancer Lafarge.com et qui fait une plateforme d'échange de ciment, et le cours explose et le cours de Lafarge enfin rejoint les sommets des autres startups. Eh ben, la métaphore, c'est ça. C'est qu'à l'époque,
tout ce que tu
faisais qui pouvait de près ou de loin créer du trafic sur Internet et ouvrir les portes au futur du digital, de l'e-commerce, etc., valait des fortunes.
En particulier l'idée qu'avait Jean-Marie Messier, qui est une idée qu'il a eue trop tôt, mais qui s'est construite maintenant, aujourd'hui, 15, 20 ans après, ou 25 ans après, qui était la convergence.
La convergence des tuyaux et des contenus. Et ce qu'il avait visionnairement mis en place.
Il a une vision assez incroyable. Donc, il achète ça très cher. Toi, comment tu réagis par rapport à ça? Le fait que tous les jours, les gens disent « ça vaut pas ça, ça mérite pas ».
Honnêtement, il y a peu de gens qui ont osé me dire en face.
Bien sûr.
Je l'ai pas trop vu. Mais j'ai une anecdote assez extraordinaire, c'est que un jour il y a un journaliste, j'ai retrouvé l'article dans mon livre, je crois, j'ai fini par le retrouver. Bon, bref, qui était évidemment très aigri et très ennuyé que j'ai vendu cette boîte un milliard et quelques, et avait écrit un article en disant il a remonté un site de rencontre, et je me rappelle très bien de la dernière phrase, qui évidemment ne vaudra jamais 200 millions d'euros. Et je lis cette phrase,
Et ça, franchement, ça me blesse.
Ça te blesse, hein.
C'est étonnant parce que, jusqu'à présent, je te dis, bon, ça me m'importe pas. Ça me, ce journaliste, il écrit que ma boîte, elle vaudra jamais 200 millions. Pourquoi 200 millions? Il aurait pu mettre 100, 142, 623. Pourquoi de, comment il peut écrire ça? Ça n'a aucun sens. Cette boîte ne vaudra jamais 200 millions. Bon, ça m'énerve.
Ça touche à tel point que tu vas parler à ce moment-là à ton, à ta femme de l'époque, Laurence.
Et je dis ça à Laurence et je lui dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Et qui écrit ça, ça, enfin, c'est, elle me dit, bah, t'en fous, t'as qu'à en faire une à 500 millions d'euros. Et c'est ce que j'ai fait.
Et là, là, ça t'a... là t'es parti, là.
Je sais pas, parce qu'après, j'ai oublié ça. Mais je sais que ce truc, ça m'a piqué. Et après, j'ai oublié. Mais je pense que c'est pas neutre dans l'énergie que j'ai mis à construire Mythique.
Mythique, tu crées ça juste après. Donc là, tu restes pas à Donc-Chivendi. Vendi de son...
Je reste 18 mois quand même. Hein.
Bon, oui, pas très longtemps, je voulais dire. Pas vrai, très longtemps, par rapport au 1 milliard 2. On peut bien comprendre qu'une grande partie de ça, et là, tu as appris, hein, parce que là, c'est là où on apprend. Tout à l'heure, on parlait des échecs, on apprend des échecs. Tu prends du papier.
Mais ce que j'ai appris qui est beaucoup plus intéressant, c'est que je suis quand même pas débile. Le cash que je touche sert à payer les impôts. Les deux tiers ou la moitié qui me reste, ce sont des actions Vivendi. Et je suis pas débile. Je sais très bien que les actions Vivendi, elles peuvent monter et descendre. Et tout le monde me dit, il faut que tu te couvres. Et donc j'appelle une grande banque française et je dis, voilà, est-ce que vous pouvez me faire un accord pour être sûr que mes actions seront toujours à un prix qui peut pas descendre. Et la banque me propose un contrat qui me disait, ben on vous garantit toute la baisse, mais on vous prend la moitié de la hausse. Je trouve ça formidable. Je me dis, moi, je suis assez riche comme ça, donc je m'en fous de donner la moitié de la hausse. Par contre, perdre tout, c'est plus important, donc ça, ça va.
Mais tu ne signes pas le contrat.
Et les actions s'écroulent, et je perds tout.
Parce que tu n'as pas signé le contrat.
J'ai pas signé le contrat. Pourquoi, il était sur mon bureau. Et... Parce que j'ai compris ça bien après. Psychanalytiquement, j'assumais pas d'avoir vendu cette boîte à ce prix-là. Je savais bien que cette boîte, elle valait pas ce prix-là. Même si j'ai réussi à la vendre, même s'il y avait des lots et un briquet et tout le tout-team de la nuit, au fond de moi, je savais d'abord que ce que j'avais gagné, c'était complètement absurde par rapport à la vie qu'avaient eu mes parents et mes grands-parents. Donc déjà, j'avais ce problème-là en disant, mais c'est un peu comme le gars qui sort vivant de l'avion qui crache, quoi. Et tu dis, bah putain, tu dois être heureux. Et non, en fait, souvent, ils se foutent en l'air, d'ailleurs. Bah, c'était
pourquoi,
un peu ça.
Pourquoi toi? C'est ça que tu dis.
Pourquoi moi?
Tu aurais pu redonner une grande partie. C'était pas eu tout le moment.
Mais je l'avais plus.
Ouais. Ah oui, là, tu aurais pu.
J'aurais pu. J'aurais pu.
Mais donc, le contrat est sur la table.
Je ne le signe pas. Et je perds tout.
Et tu perds tout.
Et là, je me dis, ouf.
Et mais là, les gens te voient encore comme Marc Simoncini qui a vendu
ça. Ils ne connaissent pas l'histoire.
Et donc, ils ne connaissent pas l'histoire. Et donc, là, au quotidien. T'as rien, t'as tout perdu.
J'ai même des dettes que je peux plus rembourser.
Et les gens disent, Marc, dis donc, puisque t'as autant que ça, tu peux nous aider un peu.
Tu peux pas investir. Alors parfois tu dis oui alors que t'as pas un rond. Parfois tu fais semblant d'avoir et voilà. Et t'as plus qu'une obsession, c'est de dire comment je vais rembourser ces dettes-là alors que j'ai plus de boîte, j'ai pas de métier vraiment, hein, j'ai pas de salaire. Et j'ai pas 300 ans de salaire de dette. Donc comment je fais ça, quoi. Et là j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'avais fait rentrer dans e-France un copain qui s'appelle Thierry de Passemar. Qui lui avait acheté un bateau avec son pognon, plutôt que d'avoir gardé l'argent. Et donc j'avais passé ma vie à lui dire qu'il faisait une connerie. Sauf que quand la bulle s'est explosée, ben lui, il n'a pas perdu son bateau. Hein. Mais moi, j'ai perdu mon argent. Et il m'a dit, écoute, tu m'as fait rentrer dans e-France. On a monté ça ensemble, on l'a vendu ensemble. Moi, j'ai un contrat d'assurance vie dans lequel j'ai un peu de pognon. Si tu veux, je le mets en garantie pour que la banque ne te foute pas dehors. Et il m'a mis ce contrat en garantie. Et ça m'a permis de plus avoir de dettes. Et de pouvoir redémarrer Mythique en me disant que mon seul moyen d'en sortir, c'était que ça réussisse.
Donc là, j'avais pas de choix. Merci Thierry.
Merci Thierry. Déjà, il le sait.
Ouais, mais bon, c'est toujours.
J'ai eu l'occasion de le remercier maintes et maintes fois, par écrit à l'oral, et c'est un mec formidable.
Mythique. Je pense que toutes les auditrices et auditeurs doivent connaître
le nom. Ouais.
J'ai pas, au moins non, j'ai pas que forcément ils s'en ont servi. C'est assez étonnant. Moi, je me souviens encore il y a quelques années quand j'étais aux États-Unis. Je voyais qu'il y avait 40%, même plus que ça, de mariages, de couples, qui se faisaient à travers les sites de rencontres. Ouais. C'est la même chose, à mon avis, à peu près en France et en Europe. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, moi, je connais l'histoire, mais raconte pour les gens qui nous écoutent, comment ça se passe, cette rencontre avec tes potes, qui commençait à... On parle encore une fois, c'est pour ça que c'est important. Hein. Tout est une question de rencontre et de moment et de... T'as senti le vent parce que t'avais des copains à l'époque dont la situation était compliquée.
Qui galérait,
maritalement.
Mes trois témoins de mon mariage étaient en détresse conjugale. Et donc, ils m'appelaient tous, les uns après les autres, pour me raconter leur malheur avec leur femme. Moi, j'étais marié, mon couple allait bien, donc je passais des heures au téléphone avec l'un, puis l'autre. Et un jour, je leur dis, écoutez les gars, moi, je ne peux pas m'appeler tous les jours à me raconter comment ça se passe avec votre femme. Vous savez quoi? On va aller au resto, on va se mettre tous les quatre et vous allez me raconter vos lives. Et je dis à ma femme, écoute, ce soir, je vais dîner avec mes trois copains, on va se raconter nos vies, surtout la leur. Elle me dit, ça tombe mal parce que c'est notre anniversaire de mariage. Donc déjà, il y a un truc où je me dis, ah, c'est une mauvaise date, mais elle est très cool, elle me laisse y aller. Et pendant ce dîner, mes trois potes me disent, ben voilà, mais moi, je rencontre personne, je bosse, au travail, c'est pas possible, je suis trop vieux pour sortir. Et enfin, et ben, tout le dîner, ils me disent, c'est pas temps que je divorce, bon, ça c'est bien, mais je ne sais pas où rencontrer les gens. Et je vais me coucher, je rentre un peu bourré, je me couche, et puis la nuit, je me réveille, je me dis, mais attends, mais tu connais trois mecs, t'as trois copains, les trois te disent qu'ils trouvent pas de femme. Statistiquement, c'est 100% des mecs que tu connais trouvent pas de femme. Donc ça veut dire que si tu prends ça à l'échelle, ça doit faire quand même beaucoup de gens. Et donc, s'il y a beaucoup de garçons qui trouvent pas de femme, mathématiquement, il y a beaucoup de filles qui trouvent pas de mecs. Donc pourquoi on fait pas un truc où on les rapproche? Et le matin, je me lève et je dis à Laurence, tu vas rire, ça m'étonnerait, me répond-elle, j'ai une idée. Je vais monter un site de rencontre, je vais inscrire Laurent, Jean-Guillaume et Luc, et bien avoir trois filles qui vont venir dessus. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je dis, si, tu devrais voir, je suis sûr que ça peut marcher. Voilà. Et donc, j'ai commencé à... Voilà. Bah, comme j'avais déjà monté e-France, cette fois-ci, j'y suis allé vraiment un peu sérieusement, on a créé le truc, on l'a ouvert, et je crois que deux, trois ans après, on devait être 12 ou 15 millions de personnes dessus.
Là, il faut quand même un peu d'argent, parce que vous devez développer. Alors, quand même... Au début, il n'y a pas de modèle économique, tu n'as plus d'argent.
Il
faut pas oublier
que j'ai plus de thunes.
L'idée mythique au départ, c'est sans modèle économique. Le modèle économique va arriver au fil des mois. Donc là, les financiers... la période, elle est quand même gloomy, on va dire.
C'était vitrifié. Plus personne ne levait un euro dans l'Internet. Et moi, il me restait 700 000 euros que j'avais mis à l'abri, je ne sais pas comment. Donc j'ai monté la boîte, on a développé le site, et j'ai dit à Christophe, écoute, c'est simple, on va dépenser jusqu'au 699 millième euro, on va faire venir le plus de gens possible sur le site, et quand on a 0 euro, on ferme le site, on le rend payant. Soit ça fait zéro et on est mort, soit ça fait 1000 balles et on va gagner 30 000 balles par mois, mais au moins, c'est notre seule chance. Donc c'est un peu comme si tu sautais en disant, à un moment donné, t'as une corde qui va t'arrêter à 1 mètre de l'eau. Voilà, c'est ce que j'ai fait. La corde s'est arrêtée, on a mis le site payant, et là, on s'est assis, on a dit, combien on va gagner aujourd'hui? Et je crois qu'on a gagné 30 ou 40 000 balles dans la journée.
Et là, c'était...
Et là, j'ai dit, waouh, attends, mais c'est normal, parce que c'est tous les gens du début, le lendemain, c'était 42, puis 44, et puis 48, et là, on a dit, putain, on a allumé une fusée, et tu sais quoi? Elle décolle. Mais alors, elle aurait aussi bien pu décoller et tomber à côté. Pas décoller du tout, faire pchit. Non, cette putain de fusée, elle a décollé. Oui. Et là, je me suis retrouvé dans un cockpit avec 5000 chevaux au cul à devoir diriger un truc qui est parti jusqu'aux États-Unis, numéro un mondial ex aequo.
Donc là, pour continuer, il faut quand même avoir des financiers qui vont vous aider
bien sûr.
Donc là, des financiers, quand tu retournes les voir... On va terminer cette partie financière avec notre ami commun Benoît Grossman, qui était déjà avec toi au préalable, exceptionnel, et que j'ai reçu il y a quelques temps, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast Pause avec Benoît Grossman, qui est quand même un ovni dans le monde de la finance, mais une personne exceptionnelle. T'as beaucoup de choix d'investisseurs financiers, t'as beaucoup qui viennent taper à la porte.
L'histoire est drôle, c'est que Pierre-Éric Lebovici, avec qui je travaille aujourd'hui, était dans un fonds à l'époque qui aurait adoré faire Mythique, sauf que son comité d'éthique à l'époque avait dit non, on peut pas faire un truc comme ça, donc il a été refusé. Benoît vient me voir, j'avais un Américain qui me courait, qui était venu me voir en jet pour me rentrer chez Mythique. J'étais courtisé par un grand fonds qui s'appelait Insight à l'époque. Tiens, ma mémoire me revient.
Il existe encore. Grand site,
des milliards. Et le mec voulait absolument financer Mythique. Moi, j'étais très fier. Je voulais y aller avec eux. Sauf que Benoît m'appelle. Il me dit, oh, tu sais, les Américains. Je dis, ouais, ça. Moi, je peux te faire une offre. Et à l'époque, Benoît travaillait chez AGF, les assurances. Et il m'a dit, écoute, nous, ça nous intéresse, on veut le faire, mais il faut que tu passes devant le comité. Parce que c'est le même problème que Pierre-Éric, c'est qu'on ne sait pas si le comité va dire oui. Me voilà à la réunion du comité, et là c'est extraordinaire. Donc Benoît, il est un peu emmerdé, parce que lui, il arrête de refaire le deal, mais ce n'est pas lui qui décide. Et il y a Christophe de Bavière, qui est aussi au comité.
Christophe, toi tu mets deux Bavières.
Christophe Bavière, pardon.
Christophe de Bavière, donc
Christophe Bavière, qui était le binôme historique. Et il y a le grand patron, je pense, je ne sais plus, j'ai oublié, qui était là. Et qui n'était plus là, non, j'ai oublié. Et le gars dit. Une fois que j'ai présenté Mythique, il dit, mais attendez, mais c'est un truc, c'est pas possible.
On peut pas rentrer, des assureurs.
Parce que moi, j'avais bien compris que si des assureurs rentraient chez moi, c'était le tampon.
Tampon final.
Parce qu'après, c'était sérieux. Donc j'avais vraiment besoin qu'ils rentrent. Et le mec dit, de toute façon, il y a que des gens givrés qui vont sur ces sites, c'est que des tordus.
Et là, je lui réponds,
mais monsieur, est-ce que vous savez quel est le premier site visité par les salariés d'AGF? Ben, il me dit, j'en sais rien. Je lui dis, c'est Yahoo. Il me dit, très bien. Je lui dis, mais le deuxième? C'est Mythique. Donc, sauf à ce que vous embauchez que des gens tarés et complètement fous. Et là, un mec me dit, OK, on rentre.
Les gens sortent, t'as le chèque de AGF.
Le chèque d'AGF.
Et donc, là, avec Benoît Grossman et
FSC. Sauf que là, j'ai toujours mes dettes. Et que comme le site commence à exploser et que ça commence à marcher, je pense à ça parce que je viens de citer Yahoo, un jour, je reçois un coup de fil de Yahoo.
Jerry Yang.
T'allais y arriver. Qui me dit, écoutez, faut que je vous dise, on a Jerry Yang qui est venu à Paris, il a visité toutes les grandes boîtes du CAC 40, et quand il était à l'accueil dans les réceptions, il voyait des jolies filles qui étaient sur un site, il aimerait bien savoir ce que c'est que ce site. Je lui dis, ce site, c'est Mythique. Et il dit, ça l'intéresse beaucoup, donc me voilà en train d'être courtisé par Yahoo à Londres, qui me fait une offre de rachat qui était certes très élevée, certes moins élevé que ce que j'ai vendu à la fin, mais qui surtout m'enlevait toutes mes dettes. Et donc j'ai très vite été confronté à un choix assez horrible. Est-ce qu'il faut vendre trop tôt ou est-ce qu'il ne faut pas vendre trop tôt ?
Mythique devient leader en Europe, s'exporte même en Chine, en Brésil. Tu introduis donc, là on est en 2005, tu introduis finalement Mythique en bourse,
ouais.
Donc pour des sommes considérables. On revient sur ce... gentil, entre guillemets, journaliste qui disait jamais plus que 100. Là, tu l'as trouvé à 500. On parle de chiffres considérables, 500 millions d'euros.
Je veux dire, 500 millions d'euros à l'époque, c'est l'équivalent de 5 milliards aujourd'hui.
Ça reste, même aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. N'essayons pas de comparer par rapport à choses qui ne sont pas comparables, c'est exceptionnel. Pourquoi l'introduire en bourse, justement? C'était quelque chose qui te manquait? Tu dis, je ne l'ai pas fait, ça, c'était un problème d'ego.
Je vais te dire, maintenant je peux le raconter, j'ai pris la décision d'essayer de mettre Mythique en bourse en pissant un jour dans les bureaux. Et en fait, je devais lever 80 millions pour acheter tous mes concurrents en Europe. On avait ciblé à peu près 100 millions. On savait qu'on avait besoin de 100 millions. Et on avait vu des fonds qui étaient OK. Voilà. Et je me suis dit, je vais me retrouver avec 3 à 4 fonds, dont un américain, dont un allemand, des boards, on va être 17. Est-ce que t'es fait pour ça? Non. Est-ce que tu vas être bon pour le... Non. Est-ce que t'as envie de ça? Non. Donc j'ai dit, comment je fais pour trouver 80 millions sans avoir 4 casse-pieds à mon board? J'ai dit, je vais en bourse parce que j'aurai 400 000 petits porteurs. Et je préfère avoir 400 000 petits porteurs devant moi, donc personne, en tout cas de gros, plutôt que 3 fonds ou 4 fonds.
Mais pour ceux qui ne savent pas forcément comment ça se passe en bourse, c'est une vision peut-être un peu simpliste de voir les choses, parce que tu te retrouves avec...
Très simpliste, j'ai découvert après.
Tellement d'emmerdes quand tu es en bourse, avec des roadshows que tu devais faire tous les trimestres,
horrible, des chiffres, donc
c'est quand même, avec un peu de recul, ça je pense que tu le referais pas.
Alors, je le referais jamais, d'ailleurs ce qu'on dit c'est quand tu as fait une IPO, tu en fais jamais deux, c'est très rare, les gens confondent deux. Je le ferai plus, mais j'ai appris quand même beaucoup de trucs. Et puis surtout, j'avais eu est-ce que c'est ce coup de bol ou est-ce que c'est j'avais demandé des droits de vote double. Et je suis en train de me demander si je les ai gardés à l'IPO, mais j'en avais un peu rien à foutre des avis des fonds anglais qui m'expliquaient comment Mythique devait marcher, quoi. Je les écoutais pas beaucoup.
Ouais. En tout cas, il y en a qui d'autres qui ont fait ça. Jeff Bezos a longtemps fait ça en disant juste, vous comprenez pas mon business.
Ouais, donc, il a fait une IPO, puis finalement, il a sorti free de la côte.
Donc, quelques années plus tard, tu rachètes les activités européennes de Match.com, qui était le grand concurrent américain.
Ouais.
Et puis, en 2011, tu vends.
Exactement. Et là, j'avais fait 10 ans, c'était bien.
Place maintenant une pause amicale. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On l'écoute.
Mon cher Marc. Aujourd'hui, c'est à moi de te poser une question. iFrance, Mythique, Winamax, Sunsi sont des sociétés que tu as créées et dont j'ai eu la chance d'être à tes côtés. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, je me suis juste contenté d'apporter un petit peu d'argent et de te soutenir au cours de ces nombreuses années. C'est toi qui as tout fait et qui étais au four au moulin. Il y a eu bien sûr d'autres sociétés que je n'ai pas financées, comme les bicyclettes Angel ou Heroine. D'où ma question, d'où retires-tu toute cette énergie pour développer autant de projets et autant de sociétés?
Donc on entend Benoît Grossman, qui est managing partner d'Orazeo.
Alors, bah, c'est la dernière page de mon livre, donc je vais pas la citer de tête parce que je l'ai oublié, mais ce que je dis, c'est que il faut beaucoup d'énergie pour être un entrepreneur. Il faut se relever 50 fois. C'est un des métiers les plus difficiles psychologiquement au monde, pas physiquement, mais psychologiquement. On ne reçoit que des mauvaises nouvelles. Tout le monde veut te tuer. Tes concurrents, tes fournisseurs, tes salariés, tes machins. Bon, donc franchement, c'est dur. Bon, et on a tous un moteur. On a un moteur pour continuer à avancer, à se relever, à prendre des coups dans la gueule et avancer. Chacun va chercher l'énergie de ce moteur au fond de lui. Et donc, on a tous un moteur. Et ce moteur, il est alimenté par l'ego, pour certains, l'envie, la colère, la douleur, qu'importe. Quel que soit le carburant qu'on va utiliser, ce dont on est sûr, c'est que si on n'a pas eu une source de carburant, alors le moteur ne fonctionnera pas aussi longtemps que ça. Donc, les entrepreneurs, ce sont quasiment tous des gens qui ont quelque chose qui les pousse à avancer, qu'il l'est, c'est un besoin impérieux de rester debout, et ils vont chercher ça au fond de ce qu'ils sont, de leur histoire, de leur passé, de leur c'est de la psychologie.
On continue cette fois-ci avec une pause musicale. Quelle est ta chanson culte? Attention, je la connais, donc tu peux pas.
Oh, il y en a tellement.
Alors, une chanson culte
française. Bah normalement c'est
belge, je devrais dire.
Ouais, non, c'est forcément Brel.
Laquelle?
C'est soit Les Vieux Amants.
J'ai Les Vieux Amants.
Soit Les Vieux Amants. Normalement, tu sais que c'est avec Laurent que j'ai découvert cette chanson.
Normalement, Les Vieux Amants, on va en jouer un extrait, mais j'aimerais bien d'abord, parce que je sais que tu connais toutes les paroles et que tu aimes chanter.
Je sais pas chanter, mais je connais à peu près toutes les paroles de toutes les chansons de Brel.
Tu vois, alors?
Mais il me faut la musique.
Ah, bon. Les Vieux Amants, tu dois la connaître parfaitement. Ouais,
bien sûr, nous eûmes des orages. 15 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu bris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau de l'éclat des vieilles tempêtes. Voilà, je peux continuer comme
t'es
ça.
Hello, Marquise?
Sur 142 chansons. Non, je suis jamais allé au Marquise, mais je connais la chanson des Marquises.
Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour.
Marc, merci.
Merci, c'était un bon moment.
Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.
Bonjour, c'est Marc Velinsky. Pour les fêtes de fin d'année, offrez ou offrez-vous un livre de philosophie souriante. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Dans ce livre, je montre que même si vous connaissez l'échec, la déception, que vous n'avez pas réalisé vos rêves, vous ne pouvez pas rater votre vie. Pourquoi il est impossible de rater sa vie, aux éditions First.
Bonjour, c'est Laurent Couson. Retrouvez mon nouvel album Night Music, disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
secret. Personne ne comprenait. Son corps était d'azur fébrile, allé de lumière. Ses yeux étaient si purs, fragiles, salés au goût d'amer. Elle avait des fêlures intimes ouvertes sur la terre. Personne ne savait. Personne. Elle allait loin du monde. Des regards qui se voilent loin du monde. À l'abri des étoiles. Elle voulait être seule pour s'envoler. Très loin. Inconnues, espiègles, légères, leur ressemblaient. Elle avait des vertus trop belles, trop lourdes pour jouer. Personne ne savait. Personne. Elle allait loin du monde. Des regards qui se voilent.
Écoutez RCJ.
Perdu, perdu, perdu. plancher, loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé, sans le voir venir, notoriété oblige. J'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès, des gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Première fois, loin de nous, loin de nous.